Du jamais vu depuis plus de 70 ans, voilà ce qui est martelé depuis hier en France, car le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé ce jeudi le chiffre de 100 000 morts dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Il faut remonter à la grippe italienne de 1949 pour trouver trace d'une telle magnitude sanitaire. Sauf que nous sommes en 2021 et les moyens de santé et de communication ne sont pas les mêmes. Alors y a-t-il eu des loupés ? C'est probablement l'une des questions qui sera posée aujourd'hui à Olivier Véran, le ministre de la Santé, en visite à Manosque. À ses côtés, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Et je vous la pose cette question. Faudra-t-il, après cette crise sanitaire, faire une introspection, une analyse de la crise sanitaire en France ? Quels sont les loupés ?
Écoutez, bien sûr qu'il faudra faire une évaluation de ce qui s'est passé. Et en France, comme partout dans le monde, après, laissez penser, et votre question pourrait laisser penser ça, qu'il y aurait un problème français alors que nous sommes confrontés à une épidémie mondiale qui a fait, au moment où je vous parle, plus de 3 millions de morts dans l'ensemble du monde, et sur lequel nous savons qu'il y a aussi à la fois la part dramatique, la part d'ombre de ce que vous évoquez, les 100 000 morts, et je pense à eux, je pense à leurs familles que notre pays a connues, et en même temps, on voit aussi comment les chercheurs ont pu, en quelques jours, identifier l'ADN de ce vaccin, ce qui n'avait jamais été vu, ont pu mettre en place un vaccin, pas l'ADN de ce virus, ont pu mettre en place un vaccin dans des délais qu'on n'avait jamais vus, des capacités de production mondiale qu'on n'avait jamais vues, et donc il y a aussi des formes de réponse. Il n'empêche que nous devons garder un regard critique permanent, parce que nous devons faire évoluer nos réponses, et c'est ce que le gouvernement fait depuis un an, en permanence en fonction des réalités. Mais nous avons été confrontés, j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, et je me souviens bien de ces situations, à un virus que nous ne connaissions pas, que le monde entier ne connaissait pas, et que le monde entier a subi.
Mais aujourd'hui, on le connaît beaucoup mieux.
Bien sûr, et c'est ce que je dis. En moins d'un an, nos chercheurs, les chercheurs du monde entier, ont mis en place des solutions, et c'est ce qui nous ouvre des perspectives aujourd'hui à travers le vaccin. Un vaccin, les années précédentes, il aurait fallu 3 ans, 4 ans pour le mettre en œuvre. Puis pour le produire à l'échelle où nous le produisions, il aurait fallu une année supplémentaire. Là, le vaccin a été mis en place en moins d'un an. Et on voit aujourd'hui comment nous montons en puissance sur ce sujet. Et c'est vrai au niveau national, c'est vrai aussi dans nos départements alpins, dans notre département des Alpes-de-Haute-Provence, où au moment où je vous parle, 19% de la population a été vaccinée. C'est supérieur au niveau régional, c'est supérieur au niveau national. Et évidemment, nous devons continuer.
Si le ministre annonce de nouvelles doses, je l'accueillerai volontiers. C'est ce qu'écrivait hier sur les réseaux sociaux le maire de Manosque, Camille Galtier. Ce sera ça, l'annonce dans les valises du ministre, Olivier Véran, de nouvelles doses ?
Non, mais vous savez, soyons sérieux. Le ministre ne s'occupe pas du centre de vaccination que Camille Galtier, d'ailleurs, utilise avec un possessif en disant « dans mon centre de vaccination ». Mon frère, qui est médecin et qui vaccine dans ce centre, il n'a pas l'impression d'être le collaborateur du maire de Manosque. La réalité, c'est que tout le monde est sur le front. Le maire de Manosque est sur le front, Olivier Véran est sur le front. Et quand, aujourd'hui, le gouvernement peut, chaque jour, revendiquer d'avoir fait en sorte que dans ce pays, il y ait plus de vaccins que l'engagement que le gouvernement lui-même avait pris devant la représentation nationale mi-décembre, que toutes les échéances qui ont été prises, et notamment le fait d'avoir 10 millions de personnes vaccinées au niveau national à la mi-avril, ont été atteintes, ont même été dépassées. C'est cela la mobilisation constante. Vouloir ramener à son centre de vaccination, et je remets le possessif entre guillemets, est un petit coup de communication politique. Je ne doute pas que Camille Galtier sera là de façon républicaine. Et je sais son engagement personnel pour que les meilleures solutions soient trouvées pour Manosque. Il est légitime en cela, mais ne faisons pas de petites politiqueries.
Et la visite d'Olivier Véran, ce n'est pas un coup politique ? Quel est le sens de sa visite ?
Soutenir ceux qui sont sur le front depuis un an et se mobilisent pour faire en sorte que les habitants de Manosque, comme des Alpes-de-Haute-Provence et au niveau national, soient accompagnés, soient soignés, soient dans nos hôpitaux pris en main. C'est tout cela. Et le sens de la visite d'Olivier Véran, c'est pas de faire un coup politique en disant « je vais vous annoncer 1000 vaccins supplémentaires », parce que ça, au fond, et je vais vous le dire pour m'être engagé à plusieurs reprises sur cela, ça a déjà été fait à plusieurs reprises pour les Alpes-de-Haute-Provence. Quand il y avait des difficultés d'approvisionnement, parce que j'ai échangé en direct avec la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, nous avons obtenu un renforcement des doses. Par contre, je n'ai fait ni tweet, ni communiqué de presse. J'ai fait en sorte que ça se fasse.
Cette gestion de la crise sanitaire pose aussi la question de la gestion politique qui a plusieurs fois été décriée par votre homologue dans les Alpes-de-Provence, Delphine Bagary, ex-La République En Marche. Elle a quitté le parti, elle est désormais membre des Nouveaux Démocrates. Et à l'annonce du troisième confinement, elle n'a pas pris part au vote des mesures, estimant qu'il s'agissait d'un vote sur des décisions qui étaient déjà prises, un Parlement qui ne servait à rien. Et là, je la cite, car avec l'état d'urgence sanitaire, le Parlement n'a qu'un rôle consultatif. On est dans un simulacre de démocratie dans cette crise sanitaire.
Non, la démocratie, c'est celle qui fait qu'il y a un homme, une femme qui devient président de la République. Il ne faut pas oublier l'essentiel quand même. C'est la Ve République. Il y a un exécutif, il y a un législatif. Nous avons eu l'occasion de discuter à peu près 10 fois sur 10 textes différents à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence sanitaire. Je n'ai pas vu souvent Delphine Bagary dans ces débats-là, et il n'empêche que même si elle n'y était pas, le débat a eu lieu pendant plusieurs centaines d'heures. C'est ça la réalité. Mais si certains pensent que c'est chaque député de la nation qui, en se mettant d'accord, doit faire en sorte que nous trouvions la bonne solution que nous mettrons en œuvre sur sa circonscription, je pense que les gens qui connaissent un peu le fonctionnement de nos institutions savent que ça ne marchera pas. Surtout qu'une fois que les députés se sont mis d'accord, il faudra qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des sénateurs. Et donc aujourd'hui, il y a un exécutif qui assume toutes ses responsabilités, qui dialogue. Il y a des outils comme un comité de liaison qui réunit 2 fois par mois en moyenne le Premier ministre avec les présidents de groupe, le président de l'Assemblée nationale et la même version du côté du Sénat. C'est à tout cela aussi que nous contribuons. Delphine Bagary a fait le choix aujourd'hui d'être sans aucun groupe, d'être isolée au sein de l'Assemblée nationale. Elle n'a peut-être pas accès aux résultats du comité de liaison, etc. Mais je pense que là aussi, c'est un faux débat. Alors, on peut faire de la politique à travers les faux débats. On peut faire de la politique à travers l'action. L'action, c'est les doses que j'évoquais. C'est le fait que, dans sa circonscription, récemment, Oraison et Riez étaient retenus par le gouvernement comme labellisé petite ville de demain. Vous voyez, ça n'est pas ma circonscription. Ben, j'ai fait en sorte, et je vais les revendiquer avec un peu de revendication sur l'engagement que j'ai eu, ben, que ces 2 communes puissent bénéficier de ce dispositif-là. Il faut qu'on dépasse un peu nos logiques de chapelle et qu'on se mobilise pour notre territoire plutôt que pour des déclarations politiques.
Alors, et vous le disiez il y a quelques instants, Olivier Véran vient soutenir ceux qui sont sur le front depuis un an. Ils sont sur le front depuis un an. Je parle des praticiens, des soignants du côté du FICAS, des Alpes du Sud et de Gap plus particulièrement, sauf que cet établissement hospitalier connaît une crise sans précédent. Olivier Véran a été interpellé par le collectif du FICAS. Alors, très rapidement, en fait, c'est un conflit entre praticiens qui a conduit à des démissions et à des arrêts maladie en chaîne. Et aujourd'hui, la continuité des soins ne serait plus assurée. Roger Didier a interpellé aussi le ministre de la Santé. Il regrette qu'aujourd'hui, il ne soit pas reçu par Olivier Véran. Alors tout d'abord, Roger Didier qui n'est pas reçu par Olivier Véran, le maire de Gap, qui n'est pas reçu pour un dossier qui concerne directement la santé.
Alors, d'abord, je ne vais pas me prononcer ici sur le conflit lui-même. Je sais évidemment votre préoccupation, la préoccupation des habitants, le contentieux avec un médecin qui prétend être lanceur d'alerte, qui a été réintégré. Le directeur de l'hôpital a l'obligation de faire face à cette réintégration. Et à ce moment-là, des réactions en chaîne dans le milieu de l'hôpital avec des gens qui se mettent en retrait, voire même menacent de démissionner ou de partir. Et donc, évidemment, c'est un dossier qui ne peut pas laisser le ministre indifférent. Roger Didier a eu un contact hier, parce qu'il l'a demandé hier, pas avant, avec le cabinet d'Olivier Véran. Le contact a été mis en place immédiatement. Il se poursuivra. Mais vous savez, là aussi, je voudrais vous dire que le travail d'un ministre, d'Olivier Véran en particulier, c'est faire en sorte de s'intéresser, par exemple, à la revalorisation des carrières de l'ensemble des personnels de santé. Un accord cette semaine, on pourrait en parler, fait en sorte qu'un aide-soignant qui débutait aujourd'hui sa carrière à 1 532 € net par mois débutera sa carrière à 1 760 € d'ici peu. Et qu'à la fin de sa carrière, quand il gagnait 2 300 € net par mois, il finira à près de 3 000 € net en fin de mois. C'est ça le travail du ministre. Mais c'est aussi de se préoccuper d'une situation de crise, et le FICAS connaît une crise, et évidemment, et j'en parlerai avec lui parce que le FICAS est aussi Sisteron, évidemment, il fera en sorte que les services se mobilisent pour accompagner le FICAS et qu'on sorte de cette impasse-là. Mais là encore, franchement, communiquer sur le fait que le maire de Gap a demandé rendez-vous hier, pas avant, et qu'il ne soit pas reçu dans le département voisin apparaît comme un sujet essentiel, ben non. Moi, le maire de Gap me connaît un peu. Il ne m'a pas passé un coup de fil pour me parler de Sisteron, et il est président du conseil de surveillance de cet hôpital depuis le début de cette crise. Pas une fois. Ben, c'est pas grave. je m'en préoccupe aussi.
Crise sanitaire, crise économique. Yvon Grosso, le président du MEDEF Sud, était l'invité hier du 8-30. Lui demande plus de visibilité à long terme avec un prêt garanti par l'État, avec un remboursement plus loin. Un peu comme le modèle allemand aujourd'hui.
Écoutez, d'abord, il a dû vous le dire aussi, chacun sait que la mobilisation de l'État aux côtés de nos entrepreneurs, artisans, commerçants, mais aussi les plus grosses entreprises est totale et que nous devons sur ce sujet maintenir notre engagement parce que nous avons besoin que les entreprises puissent, dès la sortie de crise, redémarrer. Je sais que Bruno Le Maire est particulièrement attentif à la situation des entreprises. Je sais que le début du remboursement des PGE a déjà pu être déféré d'ici un an et je sais que le gouvernement regarde les différentes solutions pour que les entreprises concernées ne soient pas mises en grande difficulté du fait du remboursement du PGE. Donc votre interpellation est légitime et donc nous y travaillons et nous devons y travailler avec le monde économique.
Christophe Castaner, politique régionale et départementale, ça y est, c'est tranché, ce sera donc les 20 et 27 juin prochains. La grande gagnante, ce sera l'abstention, c'est ce qu'estimait en début de semaine sur Alpe 1 Daniel Spagnou, le président de l'association des maires dans les Alpes-de-Provence. Pour lui, au sortir de mesures de restriction, les Français vont pouvoir reproduire ce qui s'est passé pour les municipales, c'est-à-dire bouder les urnes, d'autant que cette campagne politique ne sera pas sur le terrain. Est-ce qu'il ne fallait pas repousser ces élections à l'automne ?
Vous savez, tout était possible. Moi, à titre personnel, j'étais comme Daniel Spagnou, plutôt favorable à une élection en automne. Et puis j'ai consulté mes députés dans mon groupe, et le gouvernement a consulté largement. Il a consulté notamment l'Association des maires de France. Il a consulté et il a veillé à ce que tous les préfets dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-de-France, puissent aussi consulter les maires dans chaque département. Dans le département des Alpes-de-France, près de 77% des maires qui se sont prononcés en faveur d'un report en octobre. Mais au niveau national, c'est des chiffres à peu près inverses. C'est-à-dire que presque l'ensemble de la classe politique et des groupes politiques et des partis politiques, l'ensemble des associations d'élus qui ont été consultées ont dit non. Si la France redémarre, et elle va redémarrer à l'entrée de l'été, ben, il ne faut pas dire aux gens n'allez pas voter. Et donc le gouvernement n'a pas souhaité s'opposer à la volonté générale des maires exprimée à travers leur association et a fait en sorte que nous puissions tenir ce calendrier à décaler d'une semaine parce que ça nous permettra d'avoir 2 millions de personnes supplémentaires qui seront vaccinées au moment du vote. Et nous devons tout faire pour que les élections se déroulent au mieux. Et nous avons effectivement un adversaire, c'est l'abstention, parce que ceux qui gagneront les élections, quelle que soit leur couleur politique, doivent être légitimes. Et l'abstention peut menacer cette légitimité.
Et par rapport au régional, est-ce que vous comprenez la posture de Renaud Muselier ? Plusieurs fois, vous lui avez tendu la main au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plusieurs fois, il l'a plus ou moins repoussé avant de réagir cette semaine, expliquer ne pas être contre l'addition de compétences, que lui aussi, il avait les bras ouverts et qu'il pourrait prendre les meilleurs. Alors sa position, elle est claire ou non ? Est-ce qu'il va y avoir des accords entre Renaud Muselier et La République En Marche ?
Vous savez, moi, je pense qu'il y a un risque très important dans notre région, qui est le risque du Rassemblement national et d'avoir peut-être la seule région de France qui soit présidée par l'ancien Front National. Moi, je n'oublie pas l'élection de 2015 avec une Marion Maréchal Le Pen à plus de 40% dès le premier tour et qui augmente dans l'entre-deux-tours. Le risque politique, il est majeur. C'est ce qui m'a conduit à m'adresser au chef de file de la région, parce que je sais le travail qu'il a fait sur nos territoires alpins en particulier, pour dire nous pouvons travailler ensemble sur un projet politique et sur un accord politique, pas sur un accord d'appareil. Même si j'ai eu des responsabilités à la tête d'un appareil, je sais qu'une région se construit aussi à hauteur de femmes ou à hauteur d'hommes pour représenter tous ces territoires. Et donc, j'ai tendu cette main. Il ne l'a pas voulu parce qu'il l'a peut-être entendu comme celle d'un accord d'appareil politique. Il est peut-être encore temps, il semble évoluer, de poursuivre la discussion.
Alors, dernière question. La colère gronde chez les arboriculteurs après cet épisode de gelée noire dans les Alpes du Sud. Ils veulent des aides, mais comme ils le disent, ils ne veulent pas des aides dans un an, mais tout de suite.
Ah, vous savez, d'abord, parlons pas de colère. Le sens de vos questions surfe sur des logiques de colère. Il y a des drames. Le drame sanitaire, mais aussi le drame de la gelée que nous avons connue la semaine dernière. Je me suis rendu immédiatement sur place dès le vendredi. J'étais à la Motte du Caire, accompagné de l'ensemble des élus de la préfète, parce que je sais combien cela est important. Ensuite, Ce phénomène est quasiment sur tout le territoire national. J'ai échangé hier en fin de journée avec Julien Normandie. Nous évaluons le besoin d'aide publique à plus de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, ça fait 40 euros pour chacun des habitants de nos départements. C'est de cela dont on parle quand on parle d'un milliard. Et puis au-delà du milliard d'euros d'aide, il faut préparer l'avenir. Or, il n'est plus possible qu'on soit dans des rythmes aussi réguliers, de catastrophes climatiques, sans rien faire. Et donc, il faut aussi réfléchir à investir massivement pour que nous ne soyons pas dans cette situation-là. Donc oui, le gouvernement est totalement mobilisé. Les ministres du SOPT et de Normandie y travaillent sur demande du Premier ministre, qui s'est déplacé samedi, qui se déplacera à nouveau dans 3 départements samedi prochain pour rencontrer le monde agricole.
Mais pas dans les Alpes du Sud, ça lui a reproché justement à Julien de Normandie de ne pas venir chez nous.
Non mais vous avez raison, il y a un ministre qui vient aujourd'hui et le maire de Manosque reproche qu'il vienne aujourd'hui. Et puis vous en avez un autre qui est partout en France cette semaine mais qui n'est pas encore dans les Alpes de Provence. Julien de Normandie est déjà venu dans notre département, il est venu à Fort-Calquier, mais il n'est pas venu cette semaine sur les arboriculteurs. Sortons de cette société du yaka-faucon. Et qui consiste à dire « Ah, mais il n'est pas chez moi, donc ça va pas. » Le maire de Gap, c'est « Ah, il ne me reçoit pas, donc ça va pas. » Ben quand même, on est adulte. Julien de Normandie a passé sa semaine sur le terrain. Il continuera à la passer. Il passera le week-end sur le terrain. Puis en même temps, il doit négocier avec Bruxelles, parce que les aides au monde agricole, elles sont aussi encadrées. Et quand on parle d'un milliard, il doit aussi négocier avec le ministre du Budget. Alors je trouve que cette revendication de dire « Mon Dieu, c'est terrible, il est avec les arboriculteurs, mais il n'est pas chez moi », c'est pas sérieux.
Mais en tout cas,
ça m'énerve un peu.
Ces aides n'arriveront pas rapidement. Il faut négocier.
Mais bien sûr qu'il faut négocier. Vous trouvez 1 milliard d'euros comme ça, vous ? Je vous le dis, le budget du ministère de l'Intérieur que je connais, c'est 17 milliards d'euros. 1 milliard d'euros, ça se trouve pas comme ça. Et donc, effectivement, si on doit mettre sur la table 1 milliard d'euros, et puis avant de donner des aides, il faut évaluer les conséquences. Qui aujourd'hui est capable de dire, sur la betterave par exemple, une filière importante pour nous, quelles sont les conséquences ? Personne, techniquement. Alors là aussi, sortons un peu du yaka-faucon. Ce que je sais, c'est qu'il y a une mobilisation totale du gouvernement sur ce sujet, et c'est légitime et c'est normal que nous soyons mobilisés, que les élus de terrain, qu'ils soient haut alpins, bas alpins, sont mobilisés et sont aux côtés de nos arboriculteurs, de nos agriculteurs, de nos viticulteurs, un peu plus au sud de la région. Mais que là aussi, dire « je veux tout de suite des indemnisations », c'est un peu simple à dire, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Moi, je rêve aussi que tous les agriculteurs puissent être assurés en claquant des doigts, et que ce soit les assurances privées, comme pour l'ensemble de nos auditeurs ce matin, qui puissent prendre en compte les sinistres. Eh bien, quelquefois, c'est plus compliqué. Je sais que ceux qui veulent, chez les arboriculteurs, être assurés, quelquefois, ne peuvent pas. Donc, sortons un peu de cette logique du yaka-faucon, soyons totalement mobilisés face à cette catastrophe climatique exceptionnel, et vous pouvez compter sur ma mobilisation et celle du gouvernement pour activer tous les leviers à court, à moyen terme, pour traverser cette période extrêmement difficile.
Merci.
La question qui m'est posée, c'est de dire, est-ce que samedi prochain, chaque agriculteur aura reçu un chèque ? Je préfère être franc et réaliste et vous dire, ce ne sera pas possible.
Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député des Alpes-de-Provence et président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci.